nous allons prendre le chapitre 2. Et je vous ai demandé aussi de lire le chapitre 13, enfin, de l'Apocalypse, une partie. Alors, nous commençons avec le chapitre 2, puis les questions vont apparaître. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, l'avènement, c'est sa venue, sa manifestation. Et, littéralement, je lis dans la version la plus littérale, « Or, nous vous prions, frères, par la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. » Alors, ça éclaire beaucoup. « Nous vous prions, frères, par la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, par la parousie de notre Seigneur Jésus-Christ, par ce qu'il leur a enseigné dans le chapitre 4, verset 13 à 18, de notre Seigneur Jésus-Christ, et par notre rassemblement auprès de lui. Quand le Seigneur viendra sur les nuées du ciel, vous savez ce qui va se passer. Alors, il les exhorte, en vertu de cette vérité que je vous ai enseignée et qui se trouve dans ma première lettre, eh bien, je vous demande de ne pas vous laisser troubler, comme si le jour du Seigneur était venu, comme si le jour du jugement était là. Mais il faut un peu comprendre, comme l'a dit notre frère Paul, eh bien, ils avaient besoin de maturité, ils avaient besoin d'enseignement, de progresser dans la foi, dans la connaissance de ces vérités. Et ils s'étaient laissés troubler par des juifs qui venaient enseigner aussi, ou même par des lettres qu'on prétendait être de Paul, comme si l'avènement du Seigneur, c'est-à-dire son retour en gloire, était là, mais il n'était pas là. Son retour pour juger. Il y avait de tels jugements déjà à ce moment-là qu'ils pensaient bien, voilà, ce sont le retour du Christ, c'est là, puis il ne s'est rien passé, on n'a pas été enlevé. Alors, ça les troublait, ça mettait du doute dans leur cœur. Je vous relis pour que vous puissiez bien comprendre sur quoi l'apôtre se base pour les redresser au chapitre 2. Hein. Verset 1er. Nous vous prions, frères, par la venue de notre Seigneur Jésus-Christ et notre rassemblement auprès de lui. De quoi parle-t-il là? Eh bien, de l'enlèvement. N'est-ce pas? Étant donné que l'enlèvement n'a pas eu lieu, le jour du Seigneur n'est pas là. Comprenez-vous? Alors, ça avait beaucoup de force. Là. Puisqu'on a vu au chapitre 5, pour ce qui concerne les temps et les moments, au chapitre 5 de la première épître, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive. Car vous savez vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Et on sait bien que c'est pas pour l'Église, ça. C'est pour le monde qui n'attend pas. Et subitement, ces choses arriveront. Alors, je relis depuis le verset 13 pour vous rafraîchir la mémoire et vous fixer dans une bienheureuse espérance. Parce que voyez-vous, chers amis, ça, c'est troublant de ne pas se réjouir à la pensée de la venue du Seigneur pour enlever les siens ou d'en arriver à dire même que c'est une doctrine de démon. Je voudrais bien voir où vous trouvez cela dans l'Écriture, que c'est une doctrine de démon. Et pourtant, je l'ai lu. On ose écrire des choses pareilles. Alors évidemment, il faudra un jour répondre. Quand on enlève la bienheureuse espérance des saints. Moi, je n'essaye pas de vous berner ou de vous illusionner par ce qui est appelé la bienheureuse espérance. Je dis dans Philippiens, au chapitre 3, verset 20e. Nous, je dirais plus verset 17. Soyez donc mes imitateurs, frères, et portez des regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Ben, regardez un peu comment était l'apôtre Paul, comment était Silas, hein, comment ils se sont conduits à Thessalonique, et comparez un peu la vie de ceux qui vous enseignent. Est-ce qu'ils leur ressemblent? Soyez donc mes imitateurs, frères, et portez vos regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il en est plusieurs qui marchent. Ah oui, ils marchent. On peut faire toutes sortes de marches, soi-disant pour Jésus aussi. Plusieurs qui marchent, et pourtant ils sont ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Pas drôle. Ils ont pour Dieu leur vent, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte, et ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Ça, c'est une profession qu'on peut faire d'un certain christianisme. Verset 20. Mais nous, nous sommes concitoyens des cieux. D'où nous attendons qui? On attend d'où? Jésus. D'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Et alors, comment cela se fera-t-il? Eh bien, nous avons cette merveilleuse révélation dans Thessaloniciens au chapitre 4 à partir du verset 13. Ces Thessaloniciens qui avaient été enseignés au sujet du retour de Christ. Parce que, au chapitre 1er, il est dit que ce qui les caractérisait après leur conversion et ce que le monde racontait d'eux, verset 9, j'arrive au chapitre 1, verset 9, car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu ou tournés des idoles vers Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre, donc vous attendez, des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Donc ils attendaient le retour de Christ. Mais comme cela ne se passait pas, et qu'il y avait plusieurs de ces croyants qui étaient morts, ils pensaient que ceux qui étaient morts avaient manqué quelque chose. Alors, Paul leur répond, quand il a su leur problème au chapitre 4, verset 1, verset 13, « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, ou littéralement de ceux qui dorment, parce que pour un chrétien, la mort est considérée comme un sommeil. Hein? Lazare, notre ami, s'est endormi. Ou Étienne s'endormit. Bon, pour parler de sa mort. De ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, vous le croyez, ça? Mais croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Donc, quand il reviendra en gloire pour le monde, il aura avec lui qui? Les croyants, ressuscités ou transmis. Ils seront là. Le Christ n'apparaîtra pas au monde sans l'Église, sans sa totalité, puisque le Christ est la tête du corps et chaque croyant est un membre du corps. Quand il se manifestera au monde, le monde verra le Christ dans son unité totale. une unité qui n'est pas à créer par toute espèce de confession, on se met d'accord pour avoir un consensus sur toutes les points, c'est pas ça. L'unité chrétienne n'est pas à faire, elle est faite par le Saint-Esprit, par la vie que nous avons. C'est une unité, non pas de vue, mais de vie. On est en Christ, on n'a peut-être pas tous les mêmes vues, parce que nous n'avons pas tous le même degré de connaissance. Alors, notre unité ne repose pas sur des vues identiques, sur des points secondaires, mais notre unité repose sur la vie que nous avons en Jésus-Christ. Il est le chef, puis nous sommes les sarments. Eh bien, il y a des sarments qui croisent un petit peu à gauche, d'autres un peu à droite, mais la vie est dans le chef. Et si le sarment est dans le chef, il porte du fruit, plus de fruit, beaucoup de fruit, et du fruit qui demeure. C'est ce que vous avez au chapitre 15 de l'évangile de Jean. C'est très clair. Si nous avons la vie, alors notre unité est une unité de vie. C'est parce que nous avons la même vie que nous sommes ensemble. Nous appartenons au Seigneur. Moi, je ne peux pas appartenir au Seigneur et ne pas vous appartenir si vous êtes au Seigneur. Nous sommes une. Comprenez-vous? Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont décédés. Voici en effet ce que nous vous déclarons. D'après quoi? D'après les idées de Saint Paul? Non. D'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. Donc il y aura des vivants à l'avènement du Seigneur, à sa venue. Nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement, donc ils ne manqueront rien. Ensuite, nous les vivants, vous êtes concernés, parce que ça peut arriver dans notre vie, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Où? À flotter dans les airs? Non. Il nous conduira où? Qu'est-ce qu'il a dit? Je reviendrai et je vous prendrai auprès de moi. Où? Dans la maison du Père. Et c'est là qu'il va nous conduire. Car il a dit, Père, je veux que là où moi je suis, il y soit aussi avec moi. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Et si vous prenez ce que nous lisons dans Tite, et ça c'est justement l'enseignement de la grâce, nous sommes dans la période de la grâce, et l'enseignement de la grâce nous apporte ça. Verset 11 du chapitre 2 de l'Épître à Tite. Mais voyez-vous, il ne faut pas que ce soit simplement, oui, ça c'est dans tel Épître, ça c'est dans tel autre, etc. Il faut que ce soit un tout. La grâce de Dieu, verset 11 du chapitre 2 de l'Épître de Paul à Tite, source de salut pour tous les hommes. Dieu n'a condamné personne à la perdition éternelle. Il a tout fait pour les sauver. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Le Christ est venu. Donc la grâce de Dieu a été manifesté. Les hommes l'ont crucifié et Dieu pardonne aussi bien aux Juifs qu'aux Grecs qui l'ont crucifié et à nous. Et cette grâce nous enseigne à renoncer à quoi? À l'impiété et aux convoitises mondaines. Quelles sont les convoitises mondaines? Convoitise la chair, convoitise des yeux et orgueil de la vie. C'est ce qui mène le monde. C'est ça que vous avez dans le monde. Et elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse la justice et la piété. Selon la sagesse, quant à nous-mêmes, selon la justice quant aux autres, selon la piété quant à Dieu. Hein, c'est les trois choses. La piété, c'est notre relation continuelle avec Dieu. Puis vivre selon la justice, eh bien, c'est ne pas faire de tort à son prochain, c'est chercher à l'aider en tout. Dans la justice, dans la sagesse, alors la sagesse, c'est quant à nous-mêmes. N'est-ce pas? Si j'abuse d'une chose, disons, pour être absolument simple, je peux aimer beaucoup les pâtes. Mais si j'aime trop les pâtes et que j'en mange trop, je ne fais pas mieux qu'un ivrogne qui boit trop. Et quand j'aurai mon indigestion, je n'ai pas vécu selon la sagesse. J'ai manqué là. Il faut savoir se modérer en toute chose. Alors, vivons selon la sagesse, selon la justice quant à notre prochain, et selon la piété quant à Dieu. C'est-à-dire, faites entrer Dieu dans tous les domaines de votre existence, même les plus petites choses. Alors, vous allez faire Dieu faire de grandes choses. En attendant quoi? Qu'est-ce que la grâce nous enseigne? Elle nous enseigne une manière de vivre. En attendant quoi? La manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Quand est-ce que notre Sauveur Jésus-Christ sera manifesté au monde en gloire? C'est quand il reviendra pour juger le monde. C'est absolument clair. Mais en attendant, pour nous, c'est une bienheureuse espérance. C'est le premier acte de sa venue, puis après, il y aura la manifestation en gloire. Mais selon toutes les Écritures, entre ces deux choses, entre cette bienheureuse espérance, qu'on appelle la parousie, et la manifestation en gloire, qu'on appelle l'épiphanie, c'est-à-dire son apparition au monde, eh bien, il y a une période de temps que l'on trouve dans Daniel et qui compte pour 700. Mais vous ne pouvez pas mettre une date quant à l'enlèvement de Dieu. Ça peut se passer n'importe quand. Et pendant votre vie, c'était la réponse que nous cherchions à donner par l'Écriture à notre retraite du mois dernier. Mais c'est une bienheureuse espérance. Mais qui est liée, en même temps, à la manifestation en gloire du Seigneur. Et c'est tellement beau de lire tous les textes qui nous parlent de cela. Pourquoi est-ce que nous attendons cela? Verset 51 du chapitre 15, la première épître aux Corinthiens. Voici, je vous dis, un mystère. Nous ne mourrons pas tous. C'est pas contradictoire à ce que nous voulons dire, hein. Mais nous serons tous changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera, les morts ressusciteront incorruptibles. Les morts sont ressuscités en premier. Pas tous les morts. Les morts en Christ. Les morts dans la foi. Et nous serons changés, transmis. Car il faut que ce corps corruptible, c'est quoi le corps corruptible? C'est le corps qu'on a déposé dans la poussière, nos morts, nos décédés. C'est un corps corruptible qu'on a jeté dans la tombe. Il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce mortel, c'est qui le mortel? C'est nous autres, qui vivons, nous sommes des mortels. Hein. Eh bien, il faut que ce mortel revêt l'immortalité. Et lorsque ce corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, que ce mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie en victoire, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, la puissance du péché, c'est la mort. mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, la venue du Seigneur pour enlever les siens, ceux qui lui appartiennent, qui font partie du confort, c'est une bienheureuse espérance. Et puis, alors, qu'est-ce qui se passe dans le ciel que nous avions évoqué ce matin? Eh bien, nous comparaissons tous devant le tribunal de Christ, nous avons appelé ça les promotions, si vous voulez, où le Seigneur examinera ce qui a été fait pour lui dans nos vies de chrétiens. Comment nous avons passé notre existence depuis que nous disons que nous sommes vraiment convertis. Alors, si nous nous sommes relâchés, c'est peut-être le moment de nous réveiller, de nous laisser stimuler, et la parole est faite pour cela. Quand je me relâche, eh bien, le Seigneur sait me donner un moyen pour me réveiller. C'est peut-être une épreuve. Parce que c'est dans les épreuves que l'on se tourne le plus vers le Seigneur. Mais le Seigneur n'est jamais contre nous, c'est toujours pour nous. Et c'est lui qui veut faire l'œuvre en nous. Laissez-vous faire par Dieu et vous serez ses serviteurs et ses servantes. C'est pour cela que j'avais écrit ce petit livre, Les leçons de Marie, mère de Jésus, parce que nous parlons pas beaucoup de Marie dans un certain protestantisme, mais pourtant, mais à cause des exagérations du catholicisme, mais pourtant Marie est la mère bénie de notre Seigneur. Et la grande leçon qu'elle nous a donnée, quand elle a entendu l'ange lui dire ce qui allait se passer, elle dit, mais c'est pas possible, je ne connais pas d'homme, hein. C'est vrai. Et alors, elle se courbe, parce que l'ange lui dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu, tout est possible à Dieu. Alors, que dit Marie? Je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon sa parole. Alors, c'est là à servir le Seigneur. C'est accepter de se laisser faire. Parce que c'est Dieu qui va agir. Parce que c'est Dieu qui va faire les choses. C'est Dieu qui va accomplir en nous toute sa volonté. Mais laissons-nous conduire par lui. Livrons-lui nos corps, pas seulement notre âme qu'on ne voit pas, mais notre corps en sacrifice vivant, sain et agréable à Dieu, ce qui est notre culte raisonnable, un vrai culte. Eh bien, c'est ça, c'est livrer son corps. Avant, on employait notre corps pour satisfaire nos passions, les convoitises du monde, mais maintenant, on a un autre objet. Les affections de notre cœur, elles sont en Jésus qui est où? À la droite de Dieu. Alors, nos pensées, elles devraient être où? Dans le ciel déjà. Où est notre Seigneur? Est-ce que nos affections sont des affections célestes? Ou bien est-ce que nous sommes toujours avec la terre, Hein? On ne la mange pas la terre, mais elle nous mangera. Hein? C'est ça qui nous rend. Nos affections sont des affections célestes. Israël avait été choisi pour être un peuple terrestre. Il avait reçu la vocation d'être le témoin de Dieu auprès des païens. Et là, Israël a manqué et s'est corrompu. Il a voulu devenir comme les nations païennes. Il a demandé un roi pour ressembler aux autres nations. Et c'est là que ça a mal marché. Là, ils ont eu un roi, selon la chair, qu'ils appelaient Saül. Mais vous voyez, toute l'écriture nous enseigne qu'il s'appelait Saül. Et ce roi Saül, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est détourné du chemin de Dieu. Et alors il a été remplacé par qui? Par David, qui a eu ses manquements lui aussi. Mais enfin, qui a su s'humilier. Et vous avez le fameux miséréré, le psaume 51, où vous voyez comment après avoir commis un péché horrible, lui qui avait fait ces merveilleux cantiques, eh bien, il s'est laissé aller, alors qu'il ne manquait pourtant pas de femme. Il a convoité la femme d'un de ses officiers. Et une fois qu'il est tombé, parce qu'on ne joue pas avec la chair, faut pas croire qu'on est plus fort que les autres. Il est tombé. Il a voulu réparer tout ça, camoufler la chose. Il envoie une lettre à son officier, son général Joab, envoie-moi Uri. Puis il a pensé, ben ça ira, il est en permission, il va coucher avec sa femme. Puis, ça passera. On croira que c'est l'enfant d'Uri. Mais ça marche pas. On ne se moque pas de Dieu. Et David a appris ça. Il a pu camoufler. Mais voilà, ça n'a pas marché. Uri n'a pas été couché avec sa femme, il est allé à la caserne parce qu'il pensait à ses camarades qui étaient au front. Et pourtant c'était un haïtien. Il n'avait pas toute la connaissance des fils d'Israël. Et alors que fait David? Il écrit une lettre à Joab, mais Uri, dans un poste avancé, elle ne le couvrait pas. Alors qu'est-ce qu'il arrive si on n'est pas couvert? C'est épouvantable, hein? Il tombera, ça tue. Mais ça arrive dans la guerre qu'un homme meurt. Alors il a cru que tout ça allait très bien. Et puis après, ce brave David, une fois le deuil passé pour Bathsheba, il l'épouse, comme il est bon notre roi, il épouse une veuve. Non, pas de Dieu, je vois tout cela, toutes les turpitudes de nos cœurs. Vous allez dire, oh, même moi, je voudrais pas être comme David. Nous ne savons pas ce que nous pourrions faire. Si nous sommes laissés à nous-mêmes, mes amis, nous sommes perdus. C'est pour ça que Jésus disait, renonce à toi-même. C'est là la définition. L'évangile, c'est renonce à toi-même. Nous l'avons dit et redit. Renoncez à vous-même. Mais c'est pas du tout ce qu'on nous enseigne maintenant. Alors, je vous l'ai dit encore l'autre jour, ou bien on apprend à se connaître soi-même avec Dieu ou alors avec Satan. Et j'ai cité l'exemple de Pierre. Pierre était tellement sûr de lui, et puis c'était le grand confesseur de la foi. Je me répète peut-être, mais Dieu n'était pas là. Il a dit au Seigneur la nuit, la dernière nuit qu'il a passée avec lui, quand Jésus leur a dit, vous savez, vous allez tous m'abandonner cette nuit. Seigneur, quand même tous t'abandonneraient, moi, je ne t'abandonnerai pas. Et vous savez la suite. Jésus lui dit, le coq n'aura pas chanté deux fois que toi, tu me renieras. Mais c'est pas possible pour Pierre. Alors il y va, il suit Jean de loin, et puis Jean croit lui rendre service, il le fait entrer parce qu'il connaissait quelqu'un dans la maison du souverain sacrificateur, et le pauvre Pierre est là, et puis c'est là qu'il chancelle. Parce que une petite servante lui dit, mais toi aussi tu étais de ces gens-là. Qu'un autre lui dit, mais oui, on t'a vu dans le jardin. Je ne connais pas cet homme. C'est tout de même terrible. Le Seigneur entendait cela. Je ne connais pas cet homme. Lui, il a fait des imprécations. Lui qui avait confessé le Christ. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Je ne connais pas cet homme. Cet homme qui lui avait lavé les pieds, c'est lui-même. Voilà. Alors, il ne se connaissait pas lui-même. Jésus ne lui a pas fait reproche. Il l'a simplement regardé. Et dans ce regard, il raconte. Et il a trouvé le pardon de son maître dans les pleurs du repentir. Il a sorti et pleura amèrement. Et alors, ce que je trouve de merveilleux, c'est la grâce de Dieu. Quand Jésus a été ressuscité, eh bien, il lui a donné un message à Pierre, de sorte qu'il ne s'est pas découragé. Et puis, il l'a rétabli. Mon Pierre, même tu, plus que ne le pensais, tu as dit que tous m'abandonneraient. Mais est-ce que tu m'aimes plus? Et Pierre n'a pas osé répondre. Hein. Il dit, tu sais toutes choses finalement. Tu sais que je t'aime. Le Seigneur lui dit, paix les amis. Et il a rétabli Pierre. Et j'ai parlé alors de Paul, lui, Paul de Tarse, autrefois, auquel Dieu a fait miséricorde, et qui lui aussi a appris à se connaître lui-même, mais il était fidèle, et nous l'avons vu au travers des études que nous avons faites, Paul était si fidèle qu'il a été aussi, par la grâce de Dieu, enlevé au troisième ciel. C'est pas tout le monde qui est enlevé. Dans le courant de son existence, il a été enlevé au troisième ciel, il a vu le Seigneur. Et là, dans le ciel où il était ravi, il ne peut pas dire si c'était dans son corps ou hors de corps. Il dit, ça je ne le sais pas, mais Dieu le sait. Mais voilà, j'ai été ravi au troisième ciel. Dans un homme qui est ravi au troisième ciel, on se dit quand il redescend sur la terre, il peut plus pécher, hein, il peut plus tomber. Ben, c'est pas ça qui est arrivé. Le Seigneur, parce qu'il aimait Paul, a envoyé pour que Paul soit maintenu dans l'humilité et ne se glorifie jamais d'avoir été élevé au troisième ciel, il lui a envoyé quoi? Un ange de Satan pour le souplesser. Et c'est lui-même qui le dit au chapitre 4, au chapitre 12 de la deuxième épître aux Corinthiens, il a reçu un ange de Satan pour le souplesser afin que je ne m'enorgueillisse. Parce que quand on a été élevé si haut, eh bien, on risque de s'enorgueillir. Et Dieu ne peut pas supporter l'orgueil. Même chez son serviteur Paul, il ne veut pas que Paul soit un orgueilleux, alors il lui envoie une écharde dans la chair. Mais le pauvre Paul, eh bien, lui, il pense, si je n'avais plus cette écharde, je pourrais tellement mieux servir le Seigneur. Et c'est ce que nous disons, nous aussi. Bien souvent, nous voudrions qu'il nous enlève l'écharde. Et le Seigneur permet qu'il y ait l'écharde pour nous maintenir dans l'humilité est dans la dépendance. Alors, Paul, qui a prié pour tant de malades et pour tant d'autres, eh bien, quand il a prié, il dit par trois fois, comme Moïse, hein, j'ai demandé à Dieu qu'il me délivre. Et qu'est-ce que Dieu lui a répondu? Ma grâce te suffit. Et l'explication, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et alors, il en arrive à dire, ben maintenant j'ai compris, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Je vous ai souvent dit à ceux qui me connaissent un peu, qu'une chose que je déteste, c'est quand je suis demandé pour une mission quelconque, et que j'entre dans une église, une salle, qu'il y a des gens, ben, alors, je vais dire, je vais en forme. Le jour où je me croirai en forme, ça ne rend pas. Parce que Dieu ne donne pas sa gloire à un autre. C'est pas que moi je sois en forme, c'est que le Seigneur puisse être manifesté. Comprenez-vous? Et c'est souvent quand on est vraiment dépendant de lui et que on se sent sans forme, parce que mon Sauveur, il a été sans forme sur la croix. Et c'est là qu'il m'a sauvé. Il a accepté, comme le disait le prophète, il n'avait ni forme, ni éclat pour nous le faire désirer. C'est quand même quelque chose. Une identification au Christ dans sa souffrance. Alors, quand je sens que je n'ai aucune possibilité, aucune forme, je dis, mais Seigneur, il y va de sa gloire. Et alors, on s'abandonne à lui. Et le monde peut constater que l'excellence de la puissance vient de Dieu et non pas de nous. Comprenez-vous? C'est tout ce qui est dans la Bible, ce que je vous dis là. Mais je ne veux pas vous anéantir par tous les versets bibliques. Hein. Je vous dis pas toutes les citations, mais vous pouvez les retrouver. Hein. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort, parce que je compte sur le Seigneur. Et c'est, si vous vous laissez faire par lui, il est dit, c'est Dieu qui le fera. Votre esprit, votre âme, votre corps, tout entier sera transformé. Eh bien, que nous puissions le bénir. Alors, je reviens à notre texte. Et je vous redis, or nous vous prions, frères, par la venue, donc par la parousie, par cet enlèvement des croyants dont Paul leur a parlé, de notre Seigneur Jésus-Christ et notre rassemblement auprès de lui. Quand nous sommes enlevés, on va à la rencontre du Seigneur dans les airs, il nous mène dans la maison du Père. Nous sommes rassemblés autour de lui. Et c'est là que vous pouvez reprendre les évangiles, mais il faudrait d'autres retraites pour voir tout ce qui est dit au sujet du retour du Seigneur aussi. Mais quand nous sommes rassemblés autour de lui, le Seigneur va examiner ce que nous avons fait des talents qu'il nous a donnés, qu'il nous avait confiés. Alors ne le mettons pas dans la terre, mais faisons-le valoir. Alors, par notre rassemblement près de lui, de ne pas nous laisser promptement bouleverser dans nos pensées, ni troubler, ni par l'esprit, ni par esprit, ni par parole, ni par l'être, comme si c'était par nous. Donc, l'apôtre Paul se défendait de leur avoir dit que, ou faire penser que le jour du Seigneur était là. L'enlèvement, c'est pas le jour du Seigneur. L'enlèvement, c'est le moment où le Seigneur vient pour les siens. Il les enlève auprès de lui. Et puis, ça se passe dans le ciel, dans les lieux célestes. Chacun reçoit sa récompense ou son blâme. Il y aura une perte pour certains. Ils ne perdent pas leur salut, mais ils perdent une récompense. Il est dit qu'une étoile diffère d'une autre étoile en gloire. Hein. Et l'éclat de l'étoile, c'est maintenant, c'est dans notre vie qu'elle se fit. Alors, pourquoi voulez-vous briller? Pour le monde ou pour le Seigneur? Puissiez-vous briller pour le Seigneur? Alors, l'apôtre Paul ne veut pas qu'il se laisse troubler à ce sujet, comme si le jour du Seigneur était là. Car, là, il faudrait aussi parler, il y a le jour de Christ. Le jour de Christ, c'est quand il revient là, sur les nuées pour son Église. Ça, c'est le jour de Christ, vous l'avez dans Philippiens. Puis, il y a le jour du Seigneur, c'est quand il revient alors en gloire pour se manifester au monde. Ce Jésus qui a été rejeté, c'est le Seigneur de toute la terre. Et un jour, le monde entier va le voir et le reconnaître. Et ce jour du Seigneur, vous le retrouvez dans le chapitre 19 de l'Apocalypse. Après que les saints ont été rémunérés, eh bien, il y a les noces de l'agneau. Et nous avons fait le camp Mahanaïm cette année sur fiancé au Christ, en montrant que la conversion, une vraie conversion, c'est comme si on était fiancé au Christ. On appartient déjà à celui à qui on a dit oui. On n'est pas encore ensemble, mais on va vers cette union. Et ce temps que nous passons sur la terre, c'est notre préparation à la gloire éternelle, à notre vocation céleste. Et alors, une fois que les noces de l'agneau sont passées, vous avez ça dans le chapitre 19 de l'Apocalypse, au verset 11, je vis le ciel ouvert. Et voici un cheval blanc, et celui qui était assis dessus, appelé fidèle et véritable. Et il juge et combat en justice. Et ses yeux sont comme une flamme de feu. Et sur sa tête, il y a plusieurs diadèmes. Il porte un nom écrit que nul ne connaît, que lui seul. Il est vêtu d'un vêtement teint dans le sang, et son nom s'appelle la parole de Dieu. Et les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs vêtus de teint lin blanc et pur. Et une épée aiguë à deux tranchants sort de sa bouche, afin qu'il frappe les nations, et lui les pètera avec une verge de fer, et lui foule la cuve de vin de la fureur et de la colère de Dieu le Tout-Puissant. Et l'Église, elle est enlevée avant la colère, comprenez-vous? Mais vraiment, c'est pas en passant. Il faut sonder les Écritures. C'est l'exhortation du Seigneur. Des messages, ça paraît nouveau. Mais parce qu'on n'enseigne pas ces choses dans les églises. Bien souvent. Je ne mets aucune église au pilori. Mais on se contente d'un sermon, puis on va pour le sermon, puis on va parce que le pasteur parle bien, etc. Un truc comme ça. C'est pas cela qu'il vous faut. C'est la parole de Dieu. Et priez pour que votre pasteur apporte la parole de Dieu. Vous fasse grandir dans la connaissance de la parole. Alors vous n'aurez plus besoin de personne. Vous serez quelqu'un qui peut apporter à d'autres dans la dépendance de Dieu. Verset 15. Lui foule la cuve de vin de la fureur de la colère de Dieu le plus puissant. Il y a sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, roi des rois, Seigneur des seigneurs. Et je vis un ange se tenant dans le soleil et il cria à haute voix, disant, à tous les oiseaux qui volent au milieu du ciel, venez assemblez-vous au grand souper de Dieu. Il y a donc deux festins dans ce chapitre. Il y a le festin des noces de l'agneau. L'Église a ses noces avec l'agneau, et puis sur la terre, qu'est-ce qui se prépare? Un grand festin pour tous les animaux. Afin que vous mangiez, verset 18, la chair des rois, la chair des chiliards, la chair des puissants, la chair des chevaux, la chair de ceux qui sont assis dessus, la chair de tous, libres, esclaves, petits et grands. Et je vis la bête. Elle est roi de la terre et leurs armées assemblées pour livrer le combat à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Et la bête fut prise et le faux prophète qui était avec elle, qui avait fait devant elle les miracles par lesquels il avait séduit ceux qui recevaient la marque de la bête, et ceux qui rendaient hommage à son image. Alors là, vous tombez dans le chapitre 13, hein, pour savoir qui est cette bête. Et ils furent jetés, tous deux, donc, la bête, et celui qui est appelé au faux prophète, dans l'étampe embrasée de feu. Elle aurait situé par l'épée de celui qui était assis sur le cheval, laquelle sortait de sa bouche, et tous les oiseaux furent rassasiés de leur chair. Eh bien, c'est le retour en gloire du Seigneur dont il est question là. Alors, nous revenons à ce chapitre 2 des Thessaloniciens. Le jour du Seigneur, c'est ce jour où lui viendra pour juger le monde et juger aussi les nations, parce que le chapitre 25 de Matthieu, c'est pas le jugement dernier. C'est que Dieu, le Seigneur, va juger, et nous avec lui, les nations qui, pendant ce temps qui s'écoulera entre l'enlèvement de l'Église et le retour en gloire du Seigneur, eh bien, il y a des, l'Évangile sera encore annoncé. Tous ceux qui n'ont pas entendu l'Évangile de la grâce qui est prêché maintenant, auront l'occasion d'entendre l'évangile du royaume et se convertiront à cet évangile du royaume. C'est pourquoi il ne faut pas dire, il faut attendre que le monde entier ait entendu l'évangile pour que le Seigneur revienne. C'est faux. L'Église ne convertira pas le monde. L'Église, son message, c'était d'amputer le monde. C'était d'annoncer l'évangile, et quand une âme est sauvée par l'évangile, elle fait partie de quoi? De l'Église. Et il n'y a que l'Église. Elle fait partie de l'Église. Et la vocation de l'Église, c'est un peuple céleste. C'est pourquoi il y a un amour qui n'est plus national seulement. C'est un amour céleste. On peut s'aimer entre différentes nations, différents peuples, peu importe notre origine. Si nous sommes au Seigneur, nous sommes nés de nouveau. Et alors, nous faisons un peuple nouveau, un peuple qui porte le nom du Seigneur. Mais voyez-vous, l'Église est tellement compromise dans une foule de crimes, l'Église, quand je dis la chrétienté, disons, en général, qu'elle n'a plus un témoignage puissant. On peut guère parler aux Juifs. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Par l'inquisition, en son temps, puis au temps d'Hitler, par exemple, avec le Shoah, l'Holocauste, tous ces millions de Juifs qui ont été exterminés par des nations dites chrétiennes, les Allemands étaient catholiques et protestants. C'est des nations dites chrétiennes. Alors, on n'a pas de cuisson, on est compromis par les iniquités de la chrétienté. Et c'est pourquoi beaucoup de gens disent qu'on est dans une période post-chrétienne déjà. On ne va plus s'appeler chrétien. On est post-chrétienne. On a tellement plus de chrétiens. On n'a pas de témoignage. Maintenant les musulmans. Qu'est-ce qui nous compromet vis-à-vis des musulmans? Ça m'afflige qu'on n'ait pas compris cela encore. Les croisades. Si on met même croisades pour annoncer l'évangile. Mais vous ne pourrez jamais annoncer l'évangile en mettant croisade, comprenez-vous? Je l'ai dit il y a 40 ans et à 50 ans déjà ça. Là, ça fait rien. On aime bien ce mot, croisade. Quelqu'un me disait, mais la croisade, c'est la gloire de l'Église, les croisades. Vous allez massacrer les musulmans pour avoir un tombeau vide? Hein? Et c'est la gloire. Vous voyez comment on est. On est aveuglé alors que le Seigneur parle à nos cœurs. Et voyez-vous, notre témoignage, de plus en plus, il deviendra individuel. Oh, maintenant, on veut faire de grands rassemblements. Il faut impressionner le monde. S'il y avait une église évangélique de 10 000 personnes à Montréal, vous verriez, hein, comme ça change, en fait. Mais moi, j'y crois pas. Ne crains pas, petit troupeau. Soyez fidèles au Seigneur. Je ne crois pas à ces grandes marches que l'on fait une fois par année pour Jésus. C'est pas cela que le monde veut voir. C'est une vie chrétienne dans notre comportement, dans notre manière de travailler, là où nous avons notre vocation, parce que c'est pas parce qu'on attend le Seigneur qu'on ne travaille pas. Mais justement, on fait le travail comme si c'était celui du Seigneur. Et c'est tellement, ça amène tellement de changements. Je me souviens, il y a 45 ans, peut-être j'étais dans une famille de passage en Suisse, et puis la patronne, qui était la femme d'un grand industriel, était une chrétienne, elle voulait que je fasse la lecture le matin avec elle. Puis elle a eu vraiment à cœur que sa servante viennent à ces lectures. Alors, il y avait la patronne, la servante est morte. Alors, et la servante, elle a été touchée. Mais elle m'a dit que c'était pas facile de vivre avec la patronne. Bon. Alors, j'ai dit, mais écoute, si tu disais que le Seigneur Jésus, puisque j'avais pu lui présenter le Seigneur Jésus, venait à table aujourd'hui, comment est-ce que tu pèlerais les pommes de terre? Oh ben, je ne laisserai pas des yeux, hein. Le Seigneur serait là, mais j'ai dit bien, dis-toi qu'il serait là. Et les relations entre cette servante et sa patronne ont été transformées. Pas parce qu'elle l'a compris. Et puis, la patronne a vu le changement. Alors elle n'avait plus de reproches à lui faire. C'est des souvenirs de ma grand-mère, ça, quand on avait des tâches, hein, chacun des enfants, pour une semaine, fallait balayer les escaliers. Et ma grand-mère disait, tu sais, le Seigneur, il voit dans les coins. Parce que c'était tellement facile. Enfin, il fallait faire toutes les marches, hein, mais j'ai touché toutes les marches, voilà, comment on fait comme ça. Non, mais c'est pas ça, vous n'êtes pas sérieux. Il faut aller dans les coins parce que le Seigneur, il voit dans les coins. Vous savez, ça vous marque et ça vous reste. Ça ne vous obsède pas. Mais je vous le dis comme ça. Puis quand on sort de sa chambre à coucher, elle nous avait appris, parce que ma mère était souvent malade, à faire nos lits, puis il fallait bien les faire, les lits. Parce que le Seigneur, lui, il n'était pas sorti avec précipitation du sépulcre. Il avait ses linges pliés à la résurrection. Ça avait touché un de mes grands amis, le père Jean-Roger, qui est auprès du Seigneur maintenant, qui était le guide spécial de Jérusalem pour les groupes. Et il le racontait à plusieurs, cette histoire de la grand-mère. Le Seigneur était sorti. Eh bien oui, comment est notre chambre à coucher? On est jeune. Enfin, c'est jeune qu'on doit apprendre ça. Hein, Simon? Et on fait ça pour le Seigneur. Parce que le Seigneur peut venir. Et alors, ça influence tout notre comportement. Voyez-vous, c'est simple. Et avec le Seigneur, c'est très simple, puisqu'il dit que un verre d'eau froide, quand il est donné pour le Seigneur, il ne perdra pas sa récompense. Il se souvient même d'un verre d'eau. Si nous pouvions redevenir simples comme ça. Alors, nous voulons pas nous laisser troubler, que personne ne vous séduise, car ce jour-là ne viendra pas. Que l'apostasie, alors qu'est-ce que c'est que l'apostasie? Une fois arrivé. Eh bien, l'apostasie, c'est le rejet ouvert de toutes les vérités chrétiennes. Et nous arrivons à ce moment-là. De plus en plus, les vérités chrétiennes sont mises de côté. On dit, oh, c'est du judéo-christianisme. Et vous savez, ce qui va arriver, c'est que, justement, avec l'Antichrist, eh bien, le christianisme, enfin, disons, la chrétienté et le judaïsme vont apostasier totalement. Et, qu'est-ce que il est dit de l'Antichrist, parce que personne ne vous séduise en aucune manière, car ce jour-là ne viendra pas, que l'apostasie ne soit arrivée auparavant. Bien, nous sommes en voie de voir cette apostasie. On rejette tout. Non, on n'est plus ce temps-là, maintenant on a d'autres idées, etc. Et que l'homme de péché, alors notez les noms qu'il a, cet homme, que l'homme de péché, vous savez, dans la version seconde, c'est quel verset? Et qu'on ait vu paraître l'homme impie. L'homme impie, c'est l'homme de péché, littéralement. Le fils de la perdition. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et se proclamant lui-même Dieu. Au fond, ce que Satan voulait avec Ève, vous serez comme Dieu. Mais il y aura un homme qui se prétendra être Dieu. Donc il marche. Il n'y a qu'à lire certains livres écrits récemment. On est Dieu. Tout à fait de côté, et alors on a complètement renié Jésus. Jésus n'était qu'un homme, le fils de Joseph, et même encore maintenant dans l'église catholique, qu'on se disait encore l'église catholique maintient certaines vérités. C'est ce que mon père me disait toujours, heureusement qu'il y a encore l'église catholique pour maintenir les vérités essentielles, mais maintenant, cette théologie de l'Allemagne, et qu'on a appelée la haute critique, a envahi aussi le catholicisme, et beaucoup même de prêtres ne croient pas du tout à la conception miraculeuse. On a des explications. Or, moi, j'y crois encore de tout mon cœur. Comprenez-moi, alors je suis plus catholique. Parce que qu'est-ce que veut dire catholique? Universel. Alors, nous restons dans cette base-là. Alors, ne devenez jamais sectaire. Mais ayez un cœur ouvert à tout. Et reconnaissez qu'il y a des vérités qui sont dites encore même par le pape, alors plus personne ne nous en parlait. Et puis, ne pensez pas que c'est le pape qui soit l'antichrist, ou l'homme de péché, pas du tout. Ça, c'est un rêve beaucoup catholique. Et on est triste quand on pense qu'on a fait des conversions pour rendre les gens anti-catholiques. C'était pour rendre les gens des chrétiens, des croyants, autant. Vous n'avez pas demandé de naître dans tel milieu, moi j'ai pas demandé de naître dans tel milieu, dans tel pays. On est né là où nous avons vu le jour. Alors nous remercions Dieu pour les privilèges que nous avons pu avoir. Alors, revenons vers cet homme. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous, et maintenant vous savez ce qui le retient, donc cet homme de péché des manifestés. Afin qu'il ne paraisse qu'en son temps, n'est-ce pas, à son heure, hein. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Alors, il y a le mystère de l'iniquité. Il était déjà du temps des apôtres. Et qu'est-ce que c'est que le mystère de l'iniquité? Que le péché domine. Il y avait déjà la domination du péché, le mystère de l'impiété, le mystère de l'iniquité, il opérait déjà du temps des apôtres, et l'apôtre Paul le signale aux anciens d'Éphèse dans le chapitre 20 des Actes. Mais vous voyez, c'est une connaissance de la parole que nous devons avoir. Verset 28 du chapitre 20 des Actes, Paul dit ceci. Verset 25. Maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout conseil de Dieu sans rien cacher. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. Qu'est-ce qu'avait établi l'évêque? Le Saint-Esprit. Pour paître l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous, donc du sein même de l'Église, des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner des disciples après eux, c'est ça l'aspect. Hein. On cherche d'entraîner des disciples pour une théorie, pour une doctrine. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Bien, c'est ça. Le mystère d'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Alors, on a beaucoup discuté qu'est-ce qui a retenu le mystère d'iniquité de se manifester pleinement. Mais qu'est-ce qu'on pense? C'est certainement le Saint-Esprit qui est dans l'Église. Et la présence des chrétiens. Et alors, paraîtra l'impie quand ce mystère d'iniquité aura atteint son sommet. Alors, paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche nous l'avons lu dans l'Apocalypse 19, hein, et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. Alors l'éclat de son avènement, c'est pour le monde. Quand tout à coup, le Seigneur, à toutes ces nations qui seront réunies en Israël, et qui voudront même combattre le Seigneur, tout à coup, du ciel sortira une armée. On dira, ce sont des extraterrestres qui arrivent. Non? Voulez-vous être de ces extraterrestres? Vous devenez des chrétiens, ils seront enlevés. Alors vous devez faire votre séjour dans le ciel. L'apparition de ces célestes se fera par quelle puissance? La puissance de Satan. Avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Méditez ces paroles, repassez-les dans vos cœurs. Est-ce que nous avons l'amour de la vérité pour être sauvés? Qu'est-ce que c'est que ce salut? C'est pas un petit salut, c'est un salut total, un salut complet. Aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Et nous sommes déjà un peu dans cette époque où les gens croient plutôt le mensonge que la vérité. Afin que tous ceux qui n'ont pas cru la vérité, mais qui ont pris plaisir à la justice, soient condamnés. Alors, c'était cela que vous avez lu, mais en même temps, je vous demandais de chercher à lire le chapitre 13 de l'Apocalypse, où vous voyez qu'après le grand combat qui a lieu dans les lieux célestes, entre Satan et les anges, conduits par l'archange Michel, Satan est précipité du ciel, et il vient sur la terre. Et c'est cela qui va arriver. Le monde aura le diable sur la terre. Est-ce que vous voulez y rester? Ou bien est-ce que vous avez une bienheureuse espérance? C'est d'éviter ce temps où Satan sera sur la terre. En quelque sorte, personnellement sur la terre. Alors, sa puissance, cette puissance à Satan, il la donnera à un homme. Et vous savez, il y en a eu déjà, hein, qui se sont vus offrir plus ou moins la puissance de Satan, et qui ont cru pouvoir l'avoir. Je ne veux pas parler du passé, mais plus proche de nous, il y a eu Napoléon, il y a eu Hitler. C'est les hommes qui ont cru qu'ils pourraient gouverner le monde. Hein? Mais il y en a un qui acceptera la puissance de Satan. Pourvu qu'il se prosterne devant moi et que tu m'adores. Hein? Eh bien, il a même essayé avec Jésus.